là, pour une période intertestamentaire de 400 ans, avant les évangiles. Zacharie 4. L'ange qui me parlait revint et me réveilla comme un homme qu'on tirait de son sommeil. Il me demanda « Que vois-tu ? » Je répondis « Je vois un chandelier tout en or, muni à la partie supérieure d'un réservoir. Il est surmonté de 7 lampes et il y a 7 conduits pour les lampes. 2 oliviers surplombent ce chandelier, l'un à la droite du réservoir et l'autre à sa gauche. » Reprenant la parole, je questionnais l'ange qui s'entretenait avec moi « Que signifient ces choses, mon Seigneur ?» Il me dit « Ne sais-tu pas ce que cela représente ?»« Non, mon Seigneur, lui répondis-je. » Il reprit et me dit « Voici le message que l'Éternel adresse à Zorobabel. Cette œuvre, vous l'accomplirez ni par votre bravoure, ni par la force, mais par mon esprit. Le Seigneur des armées célestes le déclare. Et qu'es-tu, toi, grande montagne ? Devant Zorobabel, tu seras transformé en plaine. Il extraira de toi la pierre principale. Au milieu des acclamations, Dieu la bénisse, Dieu la bénisse. » L'Éternel m'adressa encore la parole en ces termes. « Zorobabel a posé de ses mains les fondations de ce temple et il achèvera lui-même la reconstruction. Alors vous saurez que le Seigneur des armées célestes m'a envoyé vers vous. Qui donc méprisait le temps des petits commencements ? Il aurait plutôt dû se réjouir en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Quant à ces 7, ce sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je repris alors et je lui demandais « Que représentent ces 2 oliviers à la droite et à la gauche du chandelier ?» Puis je repris une seconde fois la parole et je lui demandais « Que représentent ces 2 branches d'olivier qui se trouvent à côté des 2 conduits en or d'où découle l'huile dorée ?» Il me répondit en disant « Ne sais-tu pas ce qu'il représente ? Non, mon Seigneur, lui répondis-je. Alors il m'expliqua, ce sont les 2 hommes qui ont reçu l'onction et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Je croyais que l'inquiétude et le défaitisme étaient le propre des Français, que je suis un peu. Mais j'ai lu quelque part, et puis à l'époque, qu'après le 11 septembre 2001, 70% des Américains admettaient être découragés et inquiets dans leur vie. Alors je ne sais pas si le moral est remonté depuis, ça m'étonnerait parce qu'il y a eu la crise de 2008 et puis il y a eu le Covid. Je ne sais pas non plus où en sont les Français, je n'ai pas de statistiques pour l'instant, mais les chiffres ne doivent pas être meilleurs. Le découragement fait partie des choses de la vie, de notre vie, et quand on est découragé, on perd beaucoup de choses, on perd confiance, on perd son enthousiasme, on perd aussi la conviction que ce que l'on est en train de faire en vaut la peine. On se dit « à quoi bon ?» On se trouve un peu désenchanté dans un monde en plein désenchantement. Et quand on est désenchanté, on aurait tendance à prendre du recul par rapport à ses engagements premiers, à s'éloigner de ce qui faisait sa joie et son enthousiasme auparavant. On pourrait faire le même constat pour Israël, le peuple de Dieu, le petit peuple de Dieu. En particulier après l'exil qu'Israël a connu au 6e siècle avant Jésus-Christ. Une expérience difficile que la déportation à Babylone, la souffrance, l'arrachement, la séparation de la famille, l'arrachement de sa patrie, le renversement de toutes les valeurs en 586 avant Jésus-Christ. Jérusalem est détruite par les Babyloniens et le temple de Dieu, le temple de son Dieu Yahvé, subit le même sort et le peuple fut amené en exil à Babylone, en Irak actuellement. Mais un beau jour, un autre royaume, le royaume perse, en Iran, prend l'ascendant sur cet empire babylonien et l'empereur perse du nom de Cyrus va émettre une sorte d'édit de tolérance, un petit peu comme Henri IV, l'édit de tolérance par rapport aux protestants au XVIe siècle. Et Cyrus émet un décret qui permet aux exilés babyloniens de retourner à Jérusalem, de rebâtir leur maison et de rebâtir aussi le temple pour y exercer sa religion. Et la construction du temple démarre Et si au début tout le monde est tout feu, tout flamme, quand les difficultés arrivent, et elles arrivent, le projet s'essouffle, il a du plomb dans l'aile, et surtout il y a de l'adversité dans l'air, il y a des adversaires dans l'air, il y a des gens qui s'opposent au projet, et ces gens emploient les grands moyens, ils dénoncent les Israélites qui bâtissent le temple au niveau du roi qui a succédé à Cyrus, et qui est moins tolérant que Cyrus, un peu comme Louis XIV qui après a abrogé l'édit de tolérance de Henri IV, un siècle après. Et il est dit dans Agée, qui est très proche de Zacharie comme prophète, les travaux sont arrêtés par la violence et par la force, les travaux de reconstruction du temple. Et donc, le découragement gagne. Les gens se disent, à quoi bon, nous ne retrouverons jamais notre glorieux passé. On est nul et on est nulle part. Mais Dieu n'abandonne pas son peuple et il va susciter deux prophètes, Agée et Zacharie, pour remettre son peuple en marche et lui donner un nouvel enthousiasme. Et dans ce chapitre 4, nous avons une vision et un message au fameux Zorobabel. Zorobabel qui fait partie de la généalogie de Jésus, qui va reconstruire ce temple. Alors, ce n'est pas évident d'entendre en première lecture, mais nous avons là, dans cette vision, une mine d'encouragement pour nous également, petit peuple de Dieu. Alors reprenons cette vision. Zacharie vient de la voir. Alors vous la voyez, hein, le chandelier, les sept lampes, avec deux rameaux d'olivier qui les entourent. On ne voit pas bien les conduits, mais ils sont là. Donc cette vision, Zacharie vient de la voir durant la nuit et au saut du lit, il a un dialogue avec un ange, c'est-à-dire un messager de Dieu, qui lui demande ce qu'il voit. Et Zacharie, en prophète obéissant, lui répond et lui dit ce qu'il voit ou ce qu'il a vu, mais en même temps, Zacharie va demander des explications. Et on est très content que Zacharie demande des explications, parce que nous n'avons pas tout compris, n'est-ce pas, à la vision. On n'a pas tout compris au film. Alors, il ne va pas avoir des réponses sur tout, mais pour les deux rameaux d'olivier, il va en recevoir. Les rameaux, dit les messagers de Dieu, ce sont les deux fonctions principales qui seront rétablies pour reconstruire le temple. Un petit peu comme le gouvernement en France, il faut à la fois le législatif et l'exécutif. À l'époque, il fallait la fonction sacerdotale de prêtre et il fallait aussi la fonction royale, donc de roi. Et donc tout sera, et ces deux rameaux représentent ces deux fonctions. Et tout ne sera pas rétabli comme avant, mais au moins on va retrouver un roi, Zorobabel, qui est prétendant au titre de roi, qui a conduit le peuple juif au retour d'exil, et qui est le prétendant légitime au titre de roi. Et un sacrificateur, Josué, qui fait partie de la famille des Lévites, et qui est depuis bien longtemps consacré au service du temple. Le roi, le sacrificateur sont là pour la reconstruction du temple. Et puis, il y a la vision de l'huile. L'huile qui part des rameaux, qui va au travers des conduits en or et qui va alimenter le chandelier en or également. Et cette huile dorée coule de façon continue et réapprovisionne le chandelier qui n'en manque pas. Tout est bien huilé dans l'histoire. L'huile est partout. Et quand on se souvient que l'huile est le symbole du Saint-Esprit, on comprend bien que le message est que cette reconstruction du temple est l'œuvre du Saint-Esprit qui est omniprésent, qui est présent et omniprésent. Non seulement l'Esprit se saisit de ces deux hommes qui remplissent les fonctions principales, il les a oints, du verbe oindre, mais en plus, ces hommes sont porteurs d'huile de bénédiction pour tout le chandelier, pour toute la communauté. L'huile, le Saint-Esprit, est partout. Non par bravoure ni par force, mais par le Saint-Esprit, dit le verset 6. Et donc, nous l'avons compris, enfin je crois, le Saint-Esprit, voilà les deux hommes qui ont reçu l'onction et qui le tiennent au service du Seigneur et qui se tiennent au service du Seigneur de toute la terre. Ah ouais. Je suis un peu trop tôt. Le chandelier représente le nouveau temple, mais un nouveau temple vivant. Et avec Zacharie, ce prophète de l'Ancien Testament, nous avons pour la première fois le sentiment qu'on ne, quand on parle de temple, on ne parle plus de murs, de briques, mais plutôt de personnes bien en vie, de personnes vivantes. Et on pense au Nouveau Testament. Vous vous souvenez, on a fait une série sur l'Épître de Pierre, et au chapitre 2, il parlait d'un temple qui était fait de pierres vivantes, c'est-à-dire vous et moi, dans la mesure où nous nous rapprochons de la pierre vivante qui est en Jésus-Christ. C'est magnifique de voir entre Zacharie et 1 Pierre 2 le lien qu'il peut y avoir. Et les chandeliers, les porte-lampes, grâce à l'huile, dégagent une certaine lumière qui représente la présence de Dieu. Les 7 lampes, le chiffre 7 correspond aux 7 yeux du Seigneur, et il s'agit d'une expression imagée pour parler de l'omniscience et de l'omniprésence de Dieu. Dieu sait tout, Dieu voit tout. Alors ça peut paraître effrayant, parfois, que Dieu sache tout de moi et voit tout de moi, de mon histoire. Mais c'est plutôt encourageant, si on le regarde d'un autre côté, de savoir que Dieu n'est pas en dehors de l'histoire, ni de mon histoire, ni de l'histoire de l'Église. Il sait tout de nous, il sait tout de moi. Et je peux lui faire confiance. Et pour cette communauté de retour d'exil qui a l'impression d'avoir été abandonnée par les dieux, c'est un élément plus qu'encourageant, enthousiasmant, qui veut dire avoir Dieu en soi, entheo, enthousiasmant. Même les lampes représentent la présence de Dieu et sa présence change tout dans leur vie et dans la nôtre. Quelle vision extraordinaire pour Zacharie, alors que le peuple est un peu en stand-by, devant cette montagne, non pas à gravir, mais cette montagne qui représente les débris de l'ancien temple de Salomon, qui est là depuis plus de 70 ans, où tout est arrêté. Nous étions, Yvonne et moi, dans un aéroport irlandais, quand nous sommes revenus des États-Unis, je ne sais plus en quelle année, mais vous savez, vous vous souvenez de l'éruption du volcan islandais. Et donc tous les vols étaient arrêtés. Et nous sommes restés 9 heures dans cet aéroport irlandais, ne sachant pas s'il y aurait un avion pour rejoindre l'Europe continentale. Je peux vous dire que l'ambiance était lourde. Il y avait plusieurs centaines de voyageurs dans cet aéroport. Certains dormaient, d'autres étaient assis. Enfin, c'était une ambiance catastrophique. Nous étions découragés, fatigués, désenchantés. Et dans cet aéroport, à l'arrêt, Dieu envoie un encouragement. Non, il ne les a pas abandonnés, mais au contraire, à travers 2 pilotes inspirés, Josué le grand prêtre et Zorobabel le dirigeant, Dieu va inaugurer une nouvelle ère, une ère où le temple sera reconstruit par son intervention. Et parce qu'on est dans une prophétie, alors je suis un peu technique là, mais c'est quand même beau la Bible. Une prophétie a plusieurs accomplissements. Il y aura une nouvelle ère. Et viendra un temps où un homme assumera les deux fonctions. Comme Zacharie l'annonce déjà en parlant du germe de l'Éternel. Regardez ce qu'il dit dans Zacharie 6:12. Écoute ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Voici un homme dont le nom est germe, et sous ses pas, tout germera. Il bâtira le temple de l'Éternel. C'est Zacharie qui parle, 500 ans avant Jésus-Christ. C'est lui qui bâtira le temple de l'Éternel. Il sera revêtu de majesté royale, et il siégera sur son trône pour gouverner. Il sera aussi prêtre sur son trône. Il y aura une belle harmonie entre les deux fonctions. Le germe, c'est Jésus-Christ. Et on voit ici, comme on le voit partout dans la Bible, l'extraordinaire déploiement du peuple de Dieu, du plan de Dieu dans l'histoire des hommes. Rien n'est laissé au hasard. Tout converge vers un objectif, se faire un peuple à tout prix, quitte à payer le prix fort, le prix de la grâce, le prix de son fils Jésus mort sur une croix pour son Église, pour son nouveau temple, fait de pierres vivantes, pour nous rassembler dans son amour éternel, pour témoigner de sa présence au monde, pour témoigner de son amour au monde. Le plan de Dieu se déploie dans l'histoire. Mais cette description extraordinaire et encourageante pour Zacharie, si elle est extraordinaire et encourageante pour Zacharie, la réalité est un peu tout autre pour Zorobabel. Il doit faire face à une montagne de difficultés, les débris de l'ancien temple. Mais le Seigneur a un message pour Zorobabel. La tâche de Zorobabel n'est pas un long fleuve tranquille, il a face à lui une grande montagne, les débris de l'ancien temple, qui symbolisent aussi toute l'accumulation des difficultés auxquelles il va devoir faire face pour la reconstruction du temple. Et il serait tentant d'utiliser la force, la violence, ses propres forces, la violence pour s'en sortir, mais le Seigneur invite Zorobabel en tant que rameau de l'olivier à ne pas compter sur sa propre force, mais sur l'Esprit. L'Esprit qui le guidera et l'aidera dans la mission qu'il a reçue de Dieu. C'est Dieu qui va aplanir cette montagne. Il va en faire une plaine. De même, pour ceux qui méprisent les petits commencements, c'est-à-dire ceux qui se moquent du petit avancement des travaux, alors qu'ils auraient dû se réjouir, eh bien leur mépris laissera place à des cris de joie en voyant la pierre choisie dans la main de Zorobabel. Vous connaissez l'expression « petit à petit, l'oiseau fait son nid ». Et effectivement, pour faire son nid, l'oiseau commence petit. Pour peu qu'on prenne le temps de l'observer, on le voit faire des dizaines de voyages avec une paille, avec un crin, avec une plume dans son bec, et l'on se dit, il n'y parviendra jamais. Mais petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et son nid est terminé au bon moment. Et le petit oiseau nous donne un bon conseil de courage, de patience et de persévérance. Et c'est exactement ce que les exilés avaient besoin afin de reconstruire le temple détruit par les Babyloniens. Et de toute évidence, certains étaient sceptiques par rapport à ces petits commencements quant à la possibilité de mener à terme la reconstruction du temple. Et d'ailleurs, ils risquaient de décourager les bâtisseurs parce qu'il n'y a rien de plus contagieux que le découragement. Mais il faut s'accrocher quand même, car si les débuts de cet immense projet furent timides, il a été mené à bout par Dieu, par son Esprit qui est derrière tout cela. J'aime bien cette petite phrase. Dieu peut faire beaucoup avec peu, mais peu, ça fait beaucoup avec Dieu. Ainsi, Zacharie dit à Zorobabel que même si d'un point de vue humain, les événements semblent défavorables, Dieu, par son Esprit, lui permettra de réaliser la construction du temple. Et bien plus, ce qu'il a commencé, Dieu va lui en accorder l'achèvement. La pierre qu'il tient dans la main, la pierre dont il est question dans ce passage, c'est la pierre d'achèvement. Et on note également les cris « grâce, grâce pour elle » qui marquent la réjouissance. On pourrait traduire par « bravo » ou « c'est trop chouette » parce que la construction est achevée, parce que c'est fait. Ne méprisons pas les petits commencements, dit le verset. Je ne sais plus, 7 ou 8. Et cette parole vaut pour nous. Car on se dit peut-être ce matin qu'il y a bien des domaines dans notre vie où nous ne voyons pas les choses avancer. Dans le domaine relationnel, où nous faisons face à des montagnes, des situations professionnelles, des situations relationnelles qui semblent ne pas progresser. Un mariage en panne, des mauvaises habitudes tenaces, une sanctification qui fait du surplace. Il y a bien des choses que nous souhaiterions voir avancer plus vite dans notre vie. Et nous doutons des petits commencements. Mais le Seigneur nous encourage à ne pas compter sur nos forces ou sur nos violences, comme il est dit littéralement, mais sur son Esprit. Parce qu'il connaît tout et il nous invite à marcher dans la confiance, petit à petit. Et puis, il y a ici son église locale, l'église du Riou. Et nous avons nos assemblées générales cet après-midi. Je demande pardon à tous les visiteurs, mais ça vous concerne aussi si vous venez d'une autre église pour votre engagement dans cette église-là. Et cet après-midi, à notre assemblée générale, on va s'apercevoir, on va constater et on l'a déjà constaté, que le Covid a fait des dégâts parmi nous. Nous sommes moins au culte qu'avant le Covid, et les activités ont souffert aussi. Et les offrandes sont en baisse. Ça a été un peu l'exil, ces deux années de Covid. Mais nous voulons penser à la reconstruction du temple. Non pas pour qu'il soit tout pareil à l'ancien, mais pour qu'il rayonne de nouveau dans la bonne ville de Cannes et de ses environs. Il y a quelques semaines, il y a une trentaine de personnes qui se sont rassemblées ici un dimanche après-midi et qui ont rêvé l'Église dans 5 ans, en 2027, pour essayer de discerner quel était le projet de Dieu pour notre Église. La réflexion continue, on n'a pas terminé, mais on ne sait pas où ça, et on ne sait pas où ça va aboutir, mais nous sommes en marche, c'est l'essentiel. Et je me disais que pour l'église du Rioux, qu'on appelle parfois le temple du Rioux, les promesses de Zacharie sont pour nous, et je les rappelle. Et avant ça, je bois un petit peu. Dieu est à l'œuvre. Il ne nous a pas abandonnés. Et j'aime beaucoup cette promesse dite par Jésus. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à Dieu de vous donner le royaume. Alors, je ne sais pas ce qu'il veut dire par royaume, mais je sais que dans la prière du Notre Père, on prie que ton règne vienne. C'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de fort. Et il dit ça à la petite communauté, la première communauté, on va dire, chrétienne, que sont les disciples. N'aie pas peur, petit troupeau, car il a plu à Dieu de te donner le royaume. J'aime aussi cette phrase de Jésus dans Matthieu 16 qui dit « Je bâtirai mon église et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. Je bâtirai mon église. » C'est son œuvre. L'église, c'est la sienne. Il est mort pour elle, comme le dit Éphésiens 5. Et il va bâtir son église à travers des serviteurs et des servantes, ces pierres vivantes que nous sommes tous. Et ce nouveau temple dont parle Zacharie, c'est nous, c'est bien nous. L'église universelle, mais l'église locale rassemblée ici, au Rioux. Et il faut que nous nous approprions ce projet de Dieu qu'est l'église pour le monde et renouveler notre engagement pour l'œuvre de Dieu sur cette terre. L'église, l'espoir de ce monde. Nous voulons rentrer dans ce projet. Dieu est à l'œuvre. Et puis, on veut compter sur son esprit. Cet esprit qui coule sur tous les conduits d'or dans la vision de Zacharie. Ni par bravoure, ni par force, mais par son esprit. Et en pensant à l'esprit, j'ai repensé à cette expression du Nouveau Testament. Et Stéphanie a lu le texte d'Éphésiens 4 qui en parle. L'unité de l'esprit. Devant la reconstruction du temple ou les défis qui sont devant nous, il nous faut rester unis, soudés, solidaires. Ce n'est pas le moment de faire bande à part, de jouer les Robinson Crusoe de la foi. C'est le moment de vivre à fond l'Église communauté. C'est le moment de se rapprocher les uns des autres pour vivre avec enthousiasme et ensemble le projet de Dieu pour le monde. Vivons par l'Esprit, l'unité de l'Esprit. Et puis, aussi pour nous, prendre courage dans nos petits recommencements. Il n'est pas question de tout commencer, on n'est pas au départ, mais des petits recommencements. Face à nos montagnes de difficultés, Dieu nous invite à ne pas mépriser les petits commencements, à ne pas nous décourager lorsque dans l'Église tel ou tel domaine semble végéter, semble ne pas progresser ou si les choses ne vont pas assez vite, mais comptons sur Dieu et son Esprit parce que de nos petits commencements, il va faire de grands sujets de joie. Parce que dans la main de Zorobabel se trouve la pierre d'achèvement et nous pourrons crier « Hourra ! » Ne méprisons pas les petits commencements. Et comme le disait le pasteur Frédéric Hubot, un enseignant qui est devenu pasteur sur le tard, il disait à ses élèves « Tout est possible ». Mais quand ils étaient face à un devoir difficile ou une épreuve insurmontable, il leur disait « Il faut manger le mammouth par petits morceaux. » Amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta parole qui déploie ton plan sur toute l'histoire. Merci parce que tu as prévu te faire un peuple. Et tu as accompagné ce peuple. Et Jésus est né de ce peuple. Et Jésus a accompli en lui toutes les prophéties. Merci pour ce nouveau temple qu'il construit dans le monde entier et ici. Merci parce qu'il est la pierre vivante de ce temple. Il est la pierre angulaire et nous pouvons nous approcher de lui pour devenir à notre tour vivant et construire quelque chose qui te soit agréable. Nous te prions, Seigneur, de nous donner la vie, de nous donner tout l'encouragement dont nous avons besoin pour recommencer, pour continuer à te servir, pour continuer à témoigner autour de nous de ton amour, de ta présence dans le monde. Merci parce que rien n'est vain en toi, tout a une signification. Et nous te prions pour notre Église et toutes les églises qui sont représentées ici par nos amis visiteurs. Nous te prions pour que tu les encourages à te servir, à témoigner de toi. Merci pour la promesse que tu vas achever cette histoire par ton amour et par ta grâce et par l'action puissante de ton Saint-Esprit. Seigneur, unis-nous tous. Au nom de Jésus, la pierre vivante, le sacrificateur et roi. Amen.